Apéro spécial Sixers
et Celtics, quand même. Bah non.
Sixers mais... win.
Sixers Celtics, ouais. Sixers win à Boston.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6.
Ouais.
3-2.
Ouais. C'était une belle soirée de match.
Oui.
La nuit dernière, une belle nuit de match. Bon, les Spurs, on reparlera d'eux dans une preview maintenant. Hein, dans une preview de demi-conf, puisque bah, ils sont qualifiés.
Première série de playoffs de Wemby et de ses potes, ça dégage.
C'est propre. Hein. C'est très propre.
4-1.
Ouais, et puis c'est maîtrisé. Là, ils n'ont pas tremblé devant le côté en vote doit se qualifier et tout. Ça a été un match. Voilà, ils ont fait
bien mené, bien géré. Hein. 12-2 dès le début, ensuite ça terrasse.
Ouais, exactement.
Nos amis les Knicks qui ont été très très bons face aux Hawks, qui ont fait pas mal de choses dont on avait parlé hein, dans la vidéo d'hier.
Ouais, dans la continuité de leur excellent Game 4 là, qu'on avait débriefé dans une vidéo récente. Donc là c'est pareil, les Knicks, Hawks, on va attendre un tout petit peu avant de revenir en détail.
Ah bah, il y a un gros Game 6.
Il y a un Game 6 à Atlanta, donc on va voir un peu ce qu'il donne. Et quand même, on va... En tout cas, les Knicks, ça fait deux très bons matchs. Donc, je trouve que ce n'est pas du tout une bonne nouvelle pour les Hawks. Ah, très bonne nouvelle pour les Knicks. Et ce n'est pas non plus une très bonne nouvelle pour le reste de la conférence Est. Tu vois ces Knicks-là qui commencent à comprendre des choses, qui ont un peu plus de Towns en point forward, un peu moins de Brunson en ISO, une
toujours
défense un peu retrouvée, Jalen Johnson encore un peu empêtré, alors que voilà. Non, franchement, ouais, du banc, je suis d'accord. C'est très intéressant ce qui se passe à New York là depuis deux matchs.
Et ça tombe bien parce que New York affrontera le vainqueur de la série dont on va parler maintenant, Celtics-Sixers. On revient à 3-2. Avant ça, attention, mesdames et messieurs, ou je dirais plus précisément, les habitants de la région de Dijon.
De la Côte d'Or, si je ne dis pas de bêtises.
Et des Moutardes et de Montfalo.
Voilà, exactement.
Restez connectés. Dans les prochaines heures, il pourrait y avoir une annonce autour de Dijon.
C'est possible qu'il y ait un petit quelque chose made in trash talk in Dijon, comme on dit.
Prochainement.
Voilà, exactement.
Avec des dates précises.
Voilà.
On n'a pas encore de lien à vous filer, mais il y aura toutes les annonces qui vont tomber. Mais au moins, vous mettez la puce à l'oreille. Dijon, vous restez au taquet. Hein,
voilà. Vous avez il y a Internet.
Ouais. Il y a Internet.
Non, je déconne.
Si, ça va, il y a Internet. En parlant de moutarde. Nos amis les Celtics. Le quatrième carton, il était piquant.
Je me demandais ce que t'allais dire. En parlant de moutarde, je disais, qu'est-ce qu'il dit ?
Ah, mais tu me connais, Alex. Victoire ! Victoire des Sixers. Hier soir, 113-97. Plein de choses à dire. Les Sixers étaient menés 3-1. On avait fait une vidéo hier midi sur les séries à 3-1, hein, sauf celle des Wolves Nuggets à 3-2. On se demandait, et on voyait tous les deux plutôt Boston finir le boulot à la maison. Avec ce Game 5 à domicile, très bon travail fait par les Celtics sur les Games 3 et 4 en déplacement. Interdiction totale pour les Sixers de gagner à domicile face à Boston. Et puis là, on est retourné dans le Massachusetts avec notamment un Joel Embiid qui avait fait son retour sur le Game 4. On se disait, tiens, est-ce que avec sa présence, avec un premier match déjà remporté en déplacement lors du Game 2, énorme BJ Edgecombe, énorme Tyrese Maxey, est-ce que Boston va faire le travail ? Est-ce que les Sixers, dos au mur, vont bien répondre ? Parlons-en parce que c'est une victoire de Philly qui renvoie la série en Pennsylvanie.
Après avoir perdu deux fois à la maison, tu viens chercher un match dos au mur, un elimination game à Boston. C'est solide mentalement.
Et c'est une spéciale Boston, on va parler de plein de choses côté Sixers, hein, mais c'est une spéciale Boston. À quoi ça sert d'être bon à domicile quand t'es bon à l'extérieur ? Ça fait des années que les Celtics, ils nous font leur spécial. Ouais, parfois on split à la maison, mais par contre, quand on se déplace, ça va bien. Les Celtics ont 3 victoires sur cette série, il n'y en a qu'une à la maison.
Il n'y en a qu'une à la maison, tout à fait. Et les Sixers ont 2 victoires, les 2 sont à l'extérieur.
C'est ça. Par quoi tu as envie de commencer ? Parce qu'il y a plein de choses, Joel Embiid, Paul George, Tyrese Maxey, le quatrième carton des Celtics. C'est quoi les premiers trucs dont tu as envie de parler sur ce match qui était hyper attendu et qui est remporté vraiment solidement par des Sixers dans le Money Time notamment ?
Par le match d'Embiid, un peu de temps pour se mettre en route. Il avait fait un bon Game 4 dans la défaite. Enfin, moi, j'ai trouvé ça plutôt intéressant.
Bon
même
retour.
Si défensivement et tout, machin, il a plus de 3 points. Voilà. Mais... là, dans ce Game 5, un peu compliqué le premier quart et tout.
Ah bah, il loupe tous ses 3 points.
Il loupe ses 3 points. Il subit un peu l'impact physique de Keita notamment. Mm-hmm. Et puisque Joel Embiid ne peut plus répondre physiquement aux exigences de la plupart des pivots NBA.
C'est plus 2021.
Non, il se déplace plus pareil. Verticalement, genre il n'y a plus grand-chose verticalement. Hein. On l'a vu sur des rebonds offensifs. Il essaie de remonter. T'as l'impression qu'il peut à peine dunker, quoi, Joel Embiid. C'est fou. En revanche, intelligence de jeu, technique, ça reste Joel Embiid. Hein. L'autre, il n'a pas été comparé à Hakeem Olajuwon pour rien. Les mains sont toujours là. Et le côté, j'insiste, intelligence de jeu. C'est-à-dire que là où Embiid, bon, il ne peut plus protéger, il ne peut plus comment dire, être pesé au rebond autant que ce qu'il faisait à une certaine époque et tout. Par contre, le ballon passe par lui en attaque. Il pose des gros écrans. En roll, il est très bon. Il est très bon au poste. Dès qu'il y a ou une prise à deux ou un espace qui se libère, il sait lâcher la balle dans le bon timing et tout. Donc, clairement, il fluidifie l'attaque des Sixers. Hier, il met 33 points. Il fait aussi 8 passes d'ess.
Ouais.
C'est le meilleur passeur des Sixers, oui, je pense, hier. Avec Polo, ouais, exactement. Là où Tyrese Maxey est aussi plus dans la finition et tout, et dans le côté cut, impact, slashing et tout. Très intéressant ce qui a été mis en place par Nick Nurse et son staff pour faire chier la défense des Celtics en utilisant la vitesse de Maxey et la gravité, si j'ose dire ainsi, de Embiid. Donc non, vraiment, vraiment bon match d'Embiid. Et dans le gros run, là, parce qu'en fait...
Il y a égalité dans le quatrième quart. Hein.
Et puis attends, les Celtics, genre, ils ont au moins plus 10 dans le deuxième et dans le troisième. Hein, plus 10, plus 12. Hein, dans le deuxième et dans le troisième. Et puis après, il y a dans les runs des Celtics, il y a vraiment quelques gros tirs de Paul George, notamment celui qui les met. Des Sixers, pardon, excuse-moi. Quelques gros tirs de Paul George, notamment celui qui les met devant, là, un de ces gros 3 points dans le quatrième quart, qui les met devant. C'était la première fois qu'ils étaient devant depuis le premier quart.
C'est le début du gros run des Sixers.
Voilà. Mais il y a du Embiid et du Maxey. C'est vraiment du Sixers game tout craché. Là-dessus, tu as l'attaque des Celtics qui s'enlise. Faudra regarder, je l'ai noté.
10 points dans le quatrième quart.
Ouais, mais j'ai noté 3 sur 22 au tir dans le quatrième quart. C'est chaud. Et là, malgré toutes les qualités défensives et toute l'intelligence tactique dont peuvent faire preuve les Celtics de temps en temps en défense comme en attaque, là ils n'ont rien pu faire. Ils shootaient trop mal et en face, bah, y a du talent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le Embiid Maxey, il te score. Et c'est intéressant pour les Sixers parce que maintenant ils reviennent à la maison. Alors, ils n'en ont pas encore gagné un chez eux. Hein. Leurs deux victoires, comme j'ai dit, sont à l'extérieur. Mais celui-là, c'est un Game 6.
Oh.
Il y a une occasion de forcer un Game 7.
Oh.
Et
face à ton ennemi juré.
Exactement. Et tu viens de prouver que tu as des armes contre lesquelles les Celtics sont en galère. Mmh. Et donc, j'ai très hâte de ce Game 6. Et voilà, je voulais commencer vraiment. Le point central pour moi, c'est Embiid. Après, il y a plein d'autres. Vas-y, hein. Il y a plein d'autres trucs.
C'est formidable de voir ce qui se passe globalement autour de Embiid. C'est-à-dire que pendant des années, on a vu un phénomène exceptionnel en NBA, un phénomène de domination offensive, défensive, statistique,
physique.
Je veux dire, quand Embiid est à son top physiquement, c'est un des joueurs les plus talentueux de l'histoire de la NBA.
Ah, il provoquait un nombre de lancers, c'était un joueur. Pas à le défendre, non,
il discutait avec Wilt Chamberlain en termes de production. On était monté à des niveaux avec Embiid qui étaient exceptionnels. Il a subi beaucoup de critiques, des critiques justifiées, parce qu'il y avait des moments où c'était au tout début de sa carrière son attitude.
Ouais, corps très fragile
ensuite,
aussi.
Ça a été fragilité de corps. Mmh. Après, ça a été parfois déclaration ou autre. Ensuite, ça a été embrouille avec des reporters des Sixers justifiés, parce qu'il y avait des reporters des Sixers qui agissaient n'importe comment. Puis ensuite, c'était l'œuf ou la poule, lui ou Doc Rivers. Et donc, Embiid est devenu assez facilement une sorte de punchline répétée et répétée en NBA, au point que ça en devenait un petit peu triste. Et on en parlait en début de saison, on disait, mais attends, on a fait un apéro tous les deux, Alex, on disait, mais attends, mais Embiid, là, quand on le regarde physiquement, on se demande même s'il va finir la saison, quoi.
Ouais.
Et là, on arrive au début des playoffs, le mec, il y a 3 semaines, il se fait opérer de l'appendicite. Hein.
Ouais.
Et on se dit, putain, le chat noir, le mec se retape encore
un mauvais moment,
au pire moment possible. Et là, ce que je trouve fort, c'est que dans la saison régulière, on a applaudi le fait qu'il y a eu un ajustement de sa part en termes de rôle. Ce n'est plus le Embiid point focal dominant, non. C'est plus du Maxey. Oui. Et lui, il va devenir un terme qu'on n'aurait jamais associé, un lieutenant, un peu plus, ou en tout cas co-star aux côtés de Maxey. Le mec revient de cette opération. Son équipe est menée. Il essaye déjà sur le Game 4 de faire une grosse perf. Et sur ce Game 5, on n'enlèvera jamais à Embiid sa capacité à se donner corps et âme quand même. Enfin, je veux dire, c'est un mec, oui, on aime, on n'aime pas, mais lorsqu'il a fallu se donner à fond, ce mec, je trouve que là il y a un arc assez formidable autour de lui et de cette performance cette nuit. C'est, t'as l'impression que les gens souhaitent d'une manière générale qu'il pousse jusqu'au Game 7 et pour qu'on voit quelque part Embiid enfin avoir une forme de triomphe. Parce qu'en plus, lorsqu'on parle de Embiid et des playoffs, souvent la punchline qu'il y a aux États-Unis, c'est excusez-moi, mais moi j'ai autant de finales de conférence que Joel Embiid, tu sais.
Bah oui, c'est la vérité. Hein.
Et donc c'est là, on va voir comment se passe cette série. Mais t'as raison, c'est important qu'on appuie tout de suite cette perf de Embiid parce que c'est un mec qui a dit lui-même, hein, ce n'est pas une rivalité avec les Celtics puisqu'il nous botte le cul tout le temps. Et c'est vrai, historiquement, les Sixers se font botter les fesses et Embiid s'est fait botter les fesses par Horford, Tatum, Brown et compagnie. Donc de le voir avoir cette performance-là après avoir aussi mal démarré le match, c'était quand même assez grandiose. Et je pense que tu l'as vu, tous les joueurs des Sixers ont dit « mais quand il est comme ça, c'est merveilleux à voir. » Terry Maxey, il a dit « mais quand il est comme ça, quand il est dominant comme ça, mais c'est,
ça motive tout le monde. »
Ça motive tout le monde, exactement.
Et donc le cœur et le mental là, d'Embiid font plaisir à voir. Et vraiment, je réinsiste là-dessus. On n'en parle pas assez, l'intelligence du jeu, de jeu du type. C'est-à-dire que là, nouveau rôle, moins de capacité physique, son utilisation est quand même évidemment différente de quand il était dominant physiquement.
Ah oui.
Et pourtant, il pèse de ouf, il s'est adapté genre en un claquement de doigts à tout ce qui se passe autour de lui. Tu sens qu'il cherche les coéquipiers, il y a eu un travail. Il faut aussi saluer Nick Nurse et son staff. Hein,
surtout saluer Nick Nurse et son staff, parce qu'il fallait faire avaler la pilule.
Ouais, faire avaler la pilule et puis avoir utilisé les autres joueurs autour et tout. Non, il y a un vrai taf qui fait chier les Celtics et qui, dans des matchs comme celui de la nuit dernière où les Sixers arrivent à recoller, on se retrouve à l'entrée du Money Time dans un match serré et bah là, les Celtics ça tombe pas dedans. Ouais. Eh bah les Sixers, ils sont là pour sanctionner.
Tout à fait.
Ils sont là.
Ils sont là absolument. On a pu avoir des performances parce que certes on parle beaucoup de Embiid, mais content aussi de voir que la vie change lorsque Quentin Grimes
super,
est en forme.
Super sorti de banc.
Quentin Grimes, notamment offensivement, il met 18 points en sortie de banc et aussi lorsqu'il faut presser le porteur. Donc il a été présent alors que tu ne comptes pas sur un VG Edgecombe hein, qui a plutôt fait un match de rookie hein, 10 points à 3 sur 8 au tir.
Ouais, tout à fait. Très bon match de Paul George.
J'aime beaucoup le match de Paul George. Ça a démarré fort quand Philly démarre par 8-2 je crois et qu'il provoque tout de suite ses tirs à 3 points. Je trouve qu'il y a cette agressivité qu'il trouve. Polo qui a eu des absences et lui aussi des soucis de minutes, il t'envoie 43 minutes hier.
Ouais, et
c'est du gros cardio face aux Celtics.
Il n'y a pas grand chose à acheter. Il
n'y a pas grand chose à acheter.
Lui non plus, hein, il n'a plus le physique qu'il a pu avoir.
Mais il a fait ce qu'il fallait.
Par contre, intelligence de jeu, il n'y a aucun problème. Qualité de shoot, bah, ça reste un mec très dangereux que tu n'as pas trop envie de laisser ouvert. Et bah, voilà, ça lâche les ballons dans le bon timing et tout. Enfin, le staff de Nurse, tu sens qu'ils ont travaillé là pour faire en sorte de surtout pas se tomber dans des iso où les gros défenseurs sur l'homme comme Derrick White, comme même Jordan Walsh ou évidemment Jaylen Brown notamment vont vraiment saouler tes extérieurs et plutôt tomber sur du mouvement sans ballon ou qui passe par en fait les deux meilleurs passeurs, les deux plaques tournantes, c'est les deux vieux avec moins de physique, c'est-à-dire Paul George et Embiid, mais qui sont capables de shooter. Enfin, il y a vraiment un truc intéressant avec ce trio Maxey, Embiid, Paul George en attaque. Je ne mets pas Edgecombe dedans, le gars est rookie, il a déjà fait deux très bons matchs dans cette série. On va voir ce qu'il est capable de proposer à la maison et tout. Mais vraiment, sur le trio de vétérans, c'est très propre comment les Sixers les utilisent pour attaquer. Là, on a combien ? Fais voir la feuille des Sixers. On a 25 plus 33, ça fait 58, plus 16, on a 74 points. À des très bons, à des tout à fait bons pourcentages au tir de la part du trio des Sixers hier.
C'est juste parfait.
C'est magnifique.
Et puis ils ont mis tout leur lancé. Ils étaient plutôt adroits à 3 points. Il n'y a pas eu non plus trop de ballons perdus, hein, seulement 9 ballons perdus. Donc c'est un match où quelque part, on va en reparler après côté Boston, parce que moi j'ai bien aimé certaines déclarations d'après-match des joueurs hein, qui ne sont pour moi pas tombées à côté de la plaque. Parlons Celtics qui loupent cette opportunité-là, celle de pouvoir notamment se reposer un peu plus.
Ils loupent leur quatrième quart surtout.
Ils loupent leur quatrième quart parce qu'en effet, Boston peut se dire qu'ils ont quasi, je crois même, un point d'avance au début du quatrième quart-temps. T'es en droit de te dire, on a fait quelque part aussi une spéciale Boston, c'est-à-dire que parfois t'as des gros trous d'air comme ça et sur lesquels on en parlait l'année dernière et il y a 2 ans et il y a 3 ans.
On en a parlé avec Simon il disait ouais c'est ça qui m'énerve parfois dans l'attaque quand il y avait un partout, quand on avait débriefé le un partout avec Simon, Simon disait un truc du genre c'est ça qui m'énerve dans l'attaque de Joe Mazzulla, c'est qu'il va pas changer de système. Il va continuer, ça va continuer à artiller.
Jusqu'au boutisme, tout à fait. Et c'est vrai que là-dessus on a pu le retrouver, donc c'est parfois la roulette avec les Celtics, c'est ce qui fait que leurs matchs en déplacement à Philly sont formidables parce qu'on a eu aussi un Game 4 dévastateur offensivement, où il n'y a pas grand chose à faire.
Trop d'armes au shoot, ça c'est sûr.
Tout à fait. Moi, quand je revois ce match, alors il y a des choses toujours qui sont intéressantes à voir, c'est-à-dire la façon dont au moins essayent de chercher les points Tatum et Brown, mais qui ont été bien réorientés plutôt sur du tir mi-distance et à distance plutôt que les accès à l'arceau. Moi, je trouve que les Kelly Oubre, notamment quand il a été mis sur Jaylen Brown, essayaient de tenir le bump pour ouvrir le mi-distance de Jaylen Brown, sur lequel il peut être très bon, mais au moins tu évites, on l'a vu à un moment, un cut ligne de fond de Jaylen Brown avec un dunk ouvert. Bon, bah là, ça le met en confiance et c'est tout de suite plus compliqué. Tatum, pareil, lorsqu'il était en isolation sur Embiid, toute la foule était un petit peu en apnée, se disait qu'est-ce que ça va donner. Au lieu de driver ligne de fond, Embiid aussi ouvre le step back à 3 points. C'est une soirée à 4 sur 12 à 3 points, donc t'es un peu gagnant par rapport à ça, par rapport à Tatum qui va à l'arceau.
Et surtout qu'avec tout ce qu'on a dit sur Embiid, quand il y a des cuts, que ce soit backdoor à 45, ce que tu veux, mais en gros de l'espace qui s'ouvre vers le cercle pour des ailiers comme Jaylen Brown, quand il y a Embiid sur le terrain, donc a priori il n'y a pas Drummond qui est quand même encore un peu plus athlétique, ou éventuellement un Adembona ou des gars comme ça. Et donc du coup, bah là, c'est pas Embiid qui va empêcher Jaylen Brown d'aller au cercle.
Non.
Et donc, les Celtics ont sous-exploité cet aspect-là. Ça, c'est sûr, on est d'accord.
Ouais. Et pour autant, j'allais t'interroger sur un truc, c'est que je suis plutôt d'accord avec les joueurs des Celtics, mais je voulais ton avis sur...
Ouais. Sur quoi ?
Les réactions, et notamment celles de Jaylen Brown en sortie de match, c'est qu'ils ont le sentiment d'avoir pas assez bien défendu avant tout. Et donc, d'avoir laissé aussi beaucoup trop les Sixers trouver des spots d'aisance, des spots faciles, au lieu d'être plus naturellement agressif et donc s'attendre à une toute autre agressivité sur le game 6.
Disons que dans leur trou d'air offensif là, du quatrième quart, quand il n'y a pas de shoot qui rentre,
oui,
c'est là où ils auraient eu besoin de leur défense qu'on a vu par
absolument
moment en saison régulière,
c'est
être
ça
capable de bien étouffer, de créer des stops, et donc pour rester plus au contact et éviter que les Sixers te fassent un gros run contre lequel tu ne peux plus revenir. Parce que le match, il se finit à 16 points d'écart. Mais c'est juste l'éclatement total du quatrième quart qui est symbolisé ici. Hein.
Bien sûr,
c'est pas du tout un match que les Celtics que les Sixers ont dominé de bout en bout. Vous l'avez compris avec ce qu'on dit.
Tout à fait.
Et donc ça, c'est sûr qu'il a raison, Jaylen Brown, sur ce point. Défensivement, offensivement, trou d'air. Mais défensivement, là, ils vont avoir besoin, s'ils veulent aller plus loin, ils ont des ambitions, ils vont avoir besoin d'être capables de générer des stops. Parce que dans l'hypothèse où ils arrivent à se défaire de ces Sixers, et dans l'hypothèse où tu as des Knicks de l'autre côté,
attention,
l'attaque des Knicks, c'est encore un autre avion. Hein.
Surtout vu la confiance qu'elle reprend là.
Attention. Effectivement, il a raison, Jaylen Brown. Il va falloir se concentrer en défense quand ça va mal en attaque. Ouais.
Moi, j'ai bien aimé qu'il dise ça parce que je pense qu'on ne changera pas, comme tu l'as dit là avec Simon, on ne changera pas le fait que l'attaque de Boston reste cette attaque, et donc avec une forme un petit peu de non-savoir et d'aléatoire par rapport à leur future réussite au tir. C'est comme ça, tu ne le contrôles pas. Il y a des soirs où ces dernières années, les Celtics sont plutôt une équipe très très forte au shoot, mais c'est du basket, donc parfois il y a des soirs où ça rentre moins bien. Par contre, tu peux contrôler ce qui se passe en défense
beaucoup plus, en tout cas
beaucoup
tout à
plus
fait. Tout à fait.
Tu peux pas contrôler le fait qu'en face il y a un mec qui prend feu, mais tu peux beaucoup plus contrôler l'effort. Et donc c'est vrai que là-dessus les Celtics peuvent aussi s'en vouloir, parce que la réussite au tir n'était pas trop là, mais de l'autre côté l'implication défensive et les choix défensifs,
les choix surtout, je suis d'accord, les choix. C'est-à-dire qu'il y a un moment où c'est sûr que tu peux pas laisser Maxi prendre feu. Mais à un moment donné, Embiid a eu des shoots. Alors, il les a pas mis en plus à 3 points, mais il a eu du ouvert. Attention, il peut te les mettre. Hein. Il est capable. Et Paul George, je suis très curieux de voir comment il va être géré au Game 6, parce que tu peux pas laisser Paul George, même si c'est plus le Paul George candidat MVP, All-Star et tout, tu peux pas laisser c'est Paul George avec autant d'espace. Ta défense ne peut pas permettre à Paul George une aussi belle liberté. C'est trop dangereux.
On est d'accord. Du coup, on va voir sur ce Game 6. Boston a peut-être eu un petit peu le sentiment que les Sixers allaient perdre.
Ça
alors
aussi.
Qu'en fait, il faut saisir le match.
Ça aussi, c'est à signaler. Ça lâche pas les Sixers.
Ça lâche pas.
Ça fait plaisir, ça.
Ça lâche pas. Ça fait grave plaisir. Et en effet, on a parfois ce sentiment avec certaines franchises de se dire tranquille, ils vont perdre par eux-mêmes. Non, le plus difficile, comme on l'a dit dans la vidéo d'hier, c'est de terminer une série. Parce qu'il y a une forme de désespoir dans l'équipe d'en face. Et là, à Philly, Alex, on va se rendre dans une salle qui va être dans une ambiance de fou malade, où tout le monde va ovationner Joel Embiid et les gars. C'est quoi les clés que t'attends sur ce Game 6 quand on voit ce qui s'est passé là sur ce Game 5?
Je suis très curieux de voir et impatient de voir jusqu'à quel point ce match, donc les Sixers, on vient de le dire, ils lâchent pas, ils viennent de prendre un match à l'extérieur dos au mur, c'est du lourd. Maintenant ils rentrent à la maison, ils ont pas été bons à la maison, pas suffisamment bons en tout cas à la maison sur les deux matchs, match 3 et 4. Là, ils savent Parce que pour le coup, Embiid, ok, il a jamais été en finale de conf et tout, mais il en a disputé des playoffs, mine de rien. Maxi commence à avoir de l'expérience. Paul George, bah, de l'expérience. On rappelle que le mec se faisait essayer de rivaliser avec LeBron du Heat hein, en 2013 et tout, hein, donc il connaît.
Un des premiers primes du Heat, ceux qui rejoignent notre chaîne. De LeBron, pardon.
Voilà, oui, un des. Mais. Ouais, un des premiers, ouais, le troisième.
Le trois...
Mais en gros, il était déjà là. Je veux dire, on parle d'un truc qui a déjà 12-13 ans. Donc, Paul George, voilà, il a du vécu et tout. Donc, ils savent. Et dans le vestiaire, en sortie de match à Boston, et là, avant ce match 6, ils vont clairement se regarder tous et dire, les gars, on a l'occasion, à la maison, devant notre public, qui va nous pousser, de forcer un Game 7. Et ça passe par quoi? Ça passe par... Faut tout de suite d'entrée de match. Il n'y a pas de genre ça prend feu Boston et nous on est sous l'eau et ils sont en confiance et on est dans la merde. Il faut absolument leur rentrer dedans d'entrée. Et donc je pense que Joel Embiid va être servi au poste. Ça va
continuer à fonctionner.
Ah oui. Et Maxi va être agressif. Après on va voir autour. Et ça passe par quels sont les choix défensifs qu'ils vont faire. Quel va être le niveau d'agressivité sur les shooters des Celtics de la part des Sixers. Ça c'est le premier truc que je vais regarder parce qu'ils sont à la maison et... Genre en gros là ils viennent d'aller chercher un match où on les attendait pas forcément alors que là pour le coup ils sont à la maison, s'ils le perdent le 6 on dira bon les Celtics c'était plus fort mais on dira ah c'est dommage ils ont raté un petit truc à faire là.
Tout à fait.
Et ils ont l'expérience pour dire putain cette fois-ci on peut pas rater cette opportunité de faire un truc.
Ah bah il y a des gars qui ont quand même un bout d'expérience. Hein,
donc premier point, deuxième point clairement on vient d'en parler télé Celtics. Oui, il y a la variance du shoot et tout, ok, mais on a bien compris qu'ils n'allaient pas changer leur façon d'attaquer, donc on va voir si les shoots rentrent pas, s'il y a quelques actions qui changent un peu, mais surtout, quels Celtics on va avoir, parce qu'ils sont capables, avec leurs joueurs extérieurs, plus un Ignas Keita qui tourne avec Vucevic dans la raquette, plus des ailiers assez longs pour faire des rotations, ils sont capables d'avoir une défense où on est tous là, on se regarde, on fait « Oh putain, oula, ok, ça rentre pas super les shoots, mais c'est vrai que les Sixers ont du mal à scorer ». À l'extérieur, pas à l'extérieur ou quoi. Niveau d'intensité défensive des Celtics.
Je suis d'accord. En fait, c'est pas contre Philly ce que je veux dire, mais à partir du moment où Boston joue à son meilleur niveau défensif et shoot ne serait-ce que correctement, il n'y a pas match.
Normalement, il n'y a pas match.
Non, il n'y a pas match. Parce que là, par exemple, sur le match qu'ils perdent, je te parle de vraiment 40% au tir, moins de 30% à 3 points, et ils loupent 9 lancers. Hein. Je veux dire, ils ont été mauvais sur l'ensemble de leurs shoots, les Celtics.
Oui, mais dans le quatrième quart surtout.
Mais surtout dans le quatrième quart.
Avant le quatrième quart, j'ai pas les stats sous les yeux. Il faudra regarder quel est le pourcentage au tir des Celtics avant le quatrième quart. Ça doit pas être si mal. Et Philly est dans le match.
Tout à fait.
Donc,
il faut faire attention. Mais c'est ça, c'est cette intensité défensive pour commencer.
Intensité et choix défensif. Qu'est-ce qu'ils vont faire sur Embiid? Est-ce que tu le doubles très vite? Quitte à ce que qui soit ouvert, Oubre ou Edgecombe? T'as pas envie de Paul George ouvert, évidemment que tu veux pas que Maxi soit ouvert, hein, ça c'est sûr et certain. Et donc c'est quoi, Oubre, est-ce qu'il y a des genres de choix? Est-ce que parce que Mazzulla, autant en attaque, je suis d'accord pour dire que parfois il est un peu en mode on y va, on s'en fout, on continue pareil. Autant en défense, ils ont montré.
S'il faut s'ajuster.
Oh la vache, les mecs sont capables. Hein.
En fait,
je suis curieux de voir.
J'ai hâte de voir la résilience psychologique de ces Sixers parce que tu sais que Boston et le plan défensif qui va être mis en place avec Sam Cassell et Joe Mazzulla va être agressif et donc. Faudra que Philly aussi, comme tu l'as très bien dit sur le début de match, ne soit pas frustré s'il n'y a pas des calls qui vont dans leur sens.
Ouais, parce que
ça va être ça. Hein.
Tu vas vouloir
servir Embiid, tu vas vouloir peut-être doubler ou être agressif défensivement. Ouais. Et s'il n'y a pas des coups de sifflet, tu sais, ça peut vite rentrer dans les têtes.
Complètement, mais ça marche dans les deux sens. Dans le sens où, par exemple, qu'est-ce qu'ils font si Embiid, comme un gros renard, là, il provoque la première de Keita. Et après, Maxi, qu'est-ce qu'il fait? Il drive pour essayer d'avoir la deuxième. Tu vois, genre,
peut-être qu'à ce moment-là, ils souhaiteront que Embiid leur mette 35-40 points, mais que tu fermeras ce qui se passe autour.
Intéressé de voir.
Évidemment, je pense que Boston doit finir le boulot aussi parce qu'il faut continuer à s'envoyer des messages à distance. C'est-à-dire que les Knicks, il y a 4 jours, on se disait qu'est-ce que c'est que ce putain de basketball. Et aujourd'hui, on est en train de se dire pop, on retrouve le Mike Brown basketball des Knicks. Et donc, en prévision d'une demi-finale, c'est très bon signe pour nos amis new-yorkais. À Boston aussi de dire les gars, quand on est en déplacement, on est juste là pour venir sur votre parquet et vous déchirer la gueule. Il n'y a pas de discussion. Quand on vient chez vous, on repart avec une seule chose, c'est la win. Voilà. Donc on vient 3 fois à Philly, on repart avec ça. Ça doit se finir en 6 côté Celtic, cette série, parce que tu ne veux pas prendre le risque d'un Game 7.
Non.
Déjà, ça, c'est la base.
Après, tu seras à la maison, au pire.
Oui, mais
c'est quand même
on en a vécu.
Oui, ah non, mais
des choses.
Bien sûr.
Et surtout que, tu le disais, on en a parlé pendant quelques semaines, mais c'était, j'ai l'impression que c'était jadis, hein, à une autre époque, hein, en février et mars. C'est pas que c'est un faux. c'est un set un peu bizarre,
Philippe. Un petit peu faussette.
Mais c'est un peu faussette parce que...
Je ne suis pas sûr que ces Sixers soient tellement moins forts que les Raptors ou les Hawks.
Ou les Hawks, on est d'accord. Et donc, du coup, attention parce qu'en face, tu sais que Maxi n'a pas peur d'un game set.
Non.
Tu sais que Embiid en a vécu, donc tu peux avoir la variance Embiid. Paul
George,
pas.
Tu peux sais te faire
Paul
mal.
George. Tu sais que Edgecomb, tu as l'impression qu'en fait, demain, tu mettras en game 7 de finale NBA. Bon, bah, il aurait pas trop peur, hein, le gamin. C'est pas un souci. Donc, attention aussi, parce qu'en face, c'est pas des genoux qui vont.
Non,
tu vois.
Et puis, bon, Mazzulla, monstrueux, coach de l'année, enfin, a priori, tu vois, voilà. Et en face, c'est Nick Nurse. On l'aime pas. Ah. Le type, il a déjà gagné une bague et il a des idées tactiques. Il est créatif. Enfin, moi, j'aime bien.
Ah bah, Nick Nurse, perso, à l'époque, Game 7, c'était contre Joel Embiid, hein, avec le shoot de Kawhi.
Il a des
Leonard.
Casseroles au cul sur la gestion du mental de ses joueurs.
Oui.
Parfois. Oui, mais là, bon. Ça a l'air de bien se passer. Hein. Ouais. Le groupe, il est là. Hein.
Nick Nurse et Embiid ont été adversaires d'un Game 7 historique avec le shoot de Kawhi. Voilà. Ce serait bien de se rabibocher autour d'un Game 7 à Boston. S'il a lieu, ce sera samedi soir, si je ne dis pas de bêtises. Je suis quasi sûr.
Ouais, je regarde quand même ou pas.
Mais je crois que c'est samedi soir.
Donc là, déjà, game 6. Ce sera
jeudi, j'imagine.
Dans la nuit de jeudi à vendredi, tout à fait, 2h du mat, heure française. Et Game 7, s'il y a, effectivement, dans la nuit de samedi à dimanche. Enfin, la nuit, j'ai pas l'horaire.
Oui, comment ça va se finir tout ça, Alex, toi tu dis ça finit ou on repart pour un Game 7?
Putain, c'est clair que...
Moi je te mets à l'aise, ça finit, Boston finit.
Ah ouais, ouais. Tu vois, je suis pas sûr.
Oui, bah,
sincèrement, je suis pas sûr.
Je te dis ça et je mets pas mon bras à couper. Hein. Mais si quitte à faire une partie prono, je vais dire allez, Boston joue mieux défensivement et shoot ne serait-ce que correctement et ça gagne.
C'est certainement le cas le plus probable. Maintenant.
Après, je rêverais d'un Game 7. Hein. Ouais. Je vais pas te mentir ce week-end là.
Et puis,
un Game 7 avec Embiid et compagnie là.
Non, je vais dire qu'il y a un Game 7, moi je pense. Moi je pense que les Sixers, c'est vraiment une belle occasion qu'ils ont là de mettre un joli point d'exclamation sur leur saison compliquée avec Embiid qui n'a pas joué tant de matchs que ça, et puis un très bon démarrage, puis après ça s'est un peu calmé. Il y a un petit côté genre oh. On est là, on a des joueurs de niveau All-Star, on a un bon coach, machin, on a du cœur, on est Philly, quoi. Ouais. Tu vois.
Il y a juste un dernier garçon dont on n'a quasiment pas mentionné le nom et qui est en train de devenir, je dirais pas une forme de bouc émissaire, mais c'est une saison régulière qui a été un peu compliquée, même très compliquée au tir, et ça se confirme sur cette série de playoffs, c'est Derrick White. On est encore en difficulté. Derrick White, 0 sur 4 à 3 points, 2 sur 8 au tir, c'est très
ça rentre pas.
Difficile pour lui. Ce serait de bon ton d'être sur une grosse perf en game 6, monsieur Dédé Blanco.
Ou en tout cas, là je vais regarder juste monsieur Derrick White.
Des deux côtés du terrain évidemment, avec la pression défensive.
La défense,
d'un côté.
Franchement, c'est pas le premier que je mettrais sur le bûcher. Et à 3 points, il est. Ah ouais, il y a quand même 2 sur 10 au match 3, 2 sur 7.
C'est 1 sur 8 que je vois là
1 sur 8, attends, parce que j'ai tous les matchs là. Non, j'ai pas tous les matchs. Attends.
Ah bah si, 1, 2, 3, 4.
Non.
Hein.
Ouais, j'ai pas le 5.
Je te fais le calcul. 2, 4, 5, 6, 7. 7 sur 12. 22, 29.
7 sur 29. Pour l'instant.
Et 0 sur 4.
Et c'est 7 sur, 20, sur 33. 7 sur 33.
Ça fait 18%.
C'est embêtant.
22%.
Ouais, c'est ça. Ouais. 20, un peu plus de 20. Ouais. C'est embêtant. Parce que ça donne une opportunité. Et d'ailleurs, on le voit de temps en temps. Nick Nurse le fait. C'est que en gros, c'est quoi? Tu peux planquer Maxi sur Derrick White en défense? Ça fait chier d'entendre ça.
Oh.
Ouais. Mais et pouvez être sûr que si nous on l'a vu avec Bastien, le staff des Sixers il l'a vu aussi. Il le sait. Et non, c'est vrai que à contrario d'un Jason Tatum qui monte vraiment en puissance et tout, encore, ouais. Qui devient vraiment genre ça y est, il est quasiment redevenu. Le Jason Tatum, quasiment, franchement, on n'est pas loin. Hein. Ouais. Enfin, bon, encore par moment, tu te dis ok, mais tu sais même pas si c'est à cause de la blessure ou pas. Donc, ouais, c'est vrai que Derrick White, ça peut complètement être un facteur X. Hein. Si tu tombes sur le match où Derrick White refait ce qu'il a pu faire précédemment,
ce serait de bon ton.
Très emmerdant pour les Sixers.
Ce serait de bon ton pour la série suivante. Ce soir, je rappelle, 3 matchs, Détroit, dos au mur. Est-ce qu'ils vont sauver leur saison? Si oui, ce sera en passant par une victoire face au Magic. Attention, incertitude sur Franz Wagner. Attention.
Oui. J'ai vu.
C'est tombé. D'ailleurs, Boston, ça aurait dû être la fête parce que Brad Stevens avait été élu Executive of the Year. Je peux dire qu'ils sont partis avec une aile de de Joel Embiid. Toronto-Cleveland, match énorme attendu à Cleveland, game 5. Très très grosse nuit hein, en NBA, parce qu'on a peut-être le downfall des Pistons ou un début de remontada. On a Cavs-Raptors avec des grosses conséquences, parce que Alex, tu répètes souvent le vainqueur du game 5. Souvent,
à 2-2, bah, le vainqueur du game 5 à 2-2.
Voilà. Et puis bah, le match de la saison des Rockets, déplacement à Los Angeles pour voir s'ils vont pouvoir retourner à Houston, provoquer un game 6. Ça va être palpitant. Nous, j'ai envie de te dire, Alex, on va se retrouver demain, non ?
Oui. Il y aura forcément des choses à débriefer après, vu la nuit qu'on va avoir.
Et on vous rappelle qu'évidemment, sur les prochains jours, en fonction de ce qui se passe, il y aura des previews des séries de demi-finale, parce que pour le moment, pas de problème au niveau du classement. Thunder et Spurs, c'est qualifié. Les deux meilleurs bilans.
Pour l'instant, il n'y a pas de preview à faire vu qu'on n'a pas assez de gagnants. Les séries s'accrochent.
Tout à fait. Et les deux meilleurs bilans sont déjà qualifiés.
Le meilleur bilan de l'Est, on va voir. Hein. C'est pas sûr. Le deuxième meilleur bilan de l'Est, bah, il a un game 6 à jouer à l'extérieur. Le troisième meilleur, c'est les Knicks. Les Knicks, voilà, je l'ai dit en début de vidéo.
Ce sera jeudi soir.
Si vous voulez mon avis, je suis pas sûr qu'il y aura un game 7. Franchement, quand ils jouent comme ça, les Knicks, tu vois pas trop ce que les Hawks vont vraiment faire.
Je suis d'accord, normalement, le favori là.
Même à Atlanta, tu vois, genre.
Je suis d'accord, ce serait de bon temps en plus pour nos amis les Knicks de ne pas provoquer de Game 7.
Les Knicks qui seraient qualifiés pour la demi-conf avant les Sixers, avant les Celtics, tu sais que celle-là.
Et du coup, avant les Pistons.
Elle était pas avant.
Et du coup, avant les Cavs.
Voilà. Tu sais que.
Techniquement, c'est ça qui est en train de se
passer. Tu sais que la conférence elle a regardé comme ça, elle fait ah merde, dis donc, mais. C'est quoi, c'était pas prévu ça? Allô, Mike Brown? Qu'est-ce qui se passe?
Il y a une fenêtre. On fonce, on vous fait des gros bisous et on se retrouve demain pour d'autres petits débriefs. Ciao.
Ciao.